Et voici la revue de presse internationale avec vous, Catherine Dutu, bonjour.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous.
À la une ce matin, Israël critiqué au Royaume-Uni et aux États-Unis, notamment pour ses attaques ciblées contre les civils à Gaza.
Des enfants blessés par des snipers ou encore ces 7 travailleurs humanitaires étrangers de l'ONG World Central Kitchen, dont 3 Britanniques tués alors qu'ils tentaient de nourrir des enfants affamés, titre le Daily Mirror au Royaume-Uni. Cela va-t-il marquer un tournant dans la guerre à Gaza ? Demande le journal israélien Haaretz. Le président américain Joe Biden a en tout cas fait part de son indignation, rapporte le New York Times et le Washington Post, estimant qu'Israël n'en fait pas assez pour protéger les civils et les humanitaires dans l'enclave palestinienne. Des médecins affirment que des enfants ont été pris pour cible par des snipers, des tireurs d'élite israéliens à Gaza, rapporte le Guardian. Le journal britannique a interrogé plusieurs médecins, dont la canadienne Fozia Alvi, qui a travaillé à l'hôpital public européen en ruine dans le sud de Gaza. Elle a vu des enfants de 7, 8 ans devenus paraplégiques, incapables de parler, tube respiratoire dans la trachée, après avoir été touchés à la tête par des balles de sniper de gros calibre. Le journal israélien Haaretz affirme de son côté que l'armée israélienne n'hésite pas à tirer sur des civils dans des kill zones, des zones de mort à Gaza, où le seul crime des civils est de franchir une ligne invisible tracée par les forces de défense israéliennes, comme l'affirment des soldats au quotidien israélien de gauche. Ils peuvent être alors étiquetés terroristes, ces civils, post-mortem. Près de 33 000 Gazaouis ont été tués selon les islamistes du Hamas. La famine ravage les rescapés, alerte l'ONU, et de nombreux Palestiniens de la bande de Gaza se demandent comment ils vont pouvoir nourrir leur famille, explique la BBC. Après que World Central Kitchen a suspendu ses opérations en réponse à la mort de 7 de ses travailleurs humanitaires, une autre organisation caritative américaine avec laquelle elle travaille, ANERA, a également suspendu ses activités, note la BBC, en raison des risques croissants pour son personnel. Ensemble, les deux organisations servaient 2 millions de repas par semaine dans tout le territoire palestinien. La proximité du fondateur de World Central Kitchen avec le milieu politique à Washington pourrait donc changer la donne diplomatique, estime le journal Haaretz. Plus de 600 éminents avocats par ailleurs au Royaume-Uni, dont d'anciens juges de la Cour suprême, ont adressé eux une lettre de 17 pages au Premier ministre Rishi Sunak pour appeler à la fin des exportations d'armes britanniques comme mesure pour prévenir le risque plausible d'un génocide, si l'on en croit la Cour internationale de justice, explique le Guardian. Joe Biden et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, Guillaume, ont prévenu de se parler au téléphone aujourd'hui, c'est ce qu'a indiqué un responsable américain au Washington Post.
Et au Venezuela, la chef de l'opposition craint d'être arrêtée.
Après un nouveau tour de vis antidémocratique du président Nicolas Maduro qui brigue un troisième mandat consécutif cet été. Sa principale rivale, Maria Corina Machado, déclarée inéligible à la présidentielle du 28 juillet, a dit redouter hier une détention injustifiée après l'adoption en première lecture à l'Assemblée vénézuélienne d'un projet de loi visant à punir le fascisme, comme l'expliquent les quotidiens El Espectador et El Tiempo depuis la Colombie, voisine du Venezuela. Cette loi compte 30 articles censés préserver la coexistence pacifique et la tranquillité publique contre l'émergence de toute expression d'ordre fasciste ou néo-fasciste, rapporte El País América depuis Caracas. Mais ce n'est qu'un nouvel outil de persécution politique, selon la Diaria, journal de gauche uruguayen, car le ministère public serait le seul à déterminer quels actes, quels messages sont fascistes, note El País, pour qui les propos de la vice-présidente de l'Assemblée nationale n'augurent rien de bon. Delcy Rodriguez a comparé le parti d'opposition, Vente Venezuela, dont le slogan est « jusqu'au bout », à Hitler, qui avait appelé à la bataille finale. Nous devons nous demander ce qu'ils veulent dire lorsqu'ils parlent de jusqu'au bout, car c'est là que se trouvent les germes de la violence, les graines de la haine et de l'extermination, a déclaré la vice-présidente de l'Assemblée, citée par El País América. D'où la crainte d'Ali Daniels, de l'ONG Acceso a la Justicia, qui défend l'état de droit au Venezuela et la séparation des pouvoirs.
Estamos muy preocupados porque se están incluyendo dentro de la definición del proyecto de ley cosas que no corresponden a lo que es el fascismo.
Nous sommes très préoccupés par le fait que la définition du projet de loi inclut des éléments qui ne correspondent pas à ce qu'est le fascisme. Il est notamment question de conservatisme moral. Mais qu'est-ce que cela recouvre? Les personnes qui vont dans des églises évangéliques, par exemple, demande le co-directeur de l'ONG interrogé à Caracas par la chaîne télévisée vénézuélienne BPI. Pour lui, la loi est trop vague à dessein. Elle pourrait concerner concerner un grand nombre de Vénézuéliens et c'est très grave, insiste le militant de Acceso a la Justicia, également cité dans les colonnes du journal vénézuélien El Nacional. La chef de l'opposition, Maria Corina Machado, a diffusé sur les réseaux sociaux la lettre qu'elle a envoyée à 18 pays, dont les États-Unis, le Chili, la France, l'Allemagne, ainsi qu'au chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell. Tous les participants à la conférence sur le Venezuela, qui s'est tenue à Bogota l'an dernier, axée sur l'allègement des sanctions internationales en échange de meilleures conditions électorales au Venezuela, précisait le Tiempo. Mais aujourd'hui, avec cette nouvelle loi sur le fascisme et de précédentes arrestations d'opposants, ajoutées à la crise économique, tout cela fait craindre au journal vénézuélien El Nacional une nouvelle vague d'émigration, 7 millions d'exilés dans le monde, alors que le Venezuela compte 28 millions d'habitants.
Et pour finir, Catherine, la Maison-Blanche veut que la Lune ait son propre fuseau horaire.
Et ce, pour les besoins de missions d'exploration spatiale qui se multiplient, précise le New York Times et la BBC. Le directeur du Bureau des sciences et de la technologie a donc enjoint la NASA de proposer d'ici fin 2026 un plan pour établir un temps lunaire coordonné, comme le précise le site d'information spatiale Space News. Alors parce que la gravité est moindre sur la Lune, le temps y passe un peu plus rapidement que sur Terre, moins 58,7 microsecondes chaque jour. Ce temps lunaire coordonné fournirait donc une référence en matière de chronométrage, explique la BBC, pour les engins spatiaux lunaires et les satellites qui nécessitent, Guillaume, une extrême précision pour leur mission.